Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 22 août 2022. Il est 20h et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation. Ah, ça fait du bien de se retrouver après quelques semaines, en tout cas en ce qui me concerne, d'absence. Mais la maison a été bien gardée pendant mon absence. Merci Didier d'ailleurs.
Avec plaisir.
C'est vrai que ça fait... Ça
et
fait...
délectation.
Et délectation. Bon. J'espère que les vacances de tout le monde ont été bonnes, de vous autour de la table, de nos auditeurs bien sûr, et que vous vous réjouissez d'attaquer une nouvelle saison. Écoutez, on est ravis et on va démarrer tout de suite. Autour de la table aujourd'hui... Ah oui. Henri Daniel, le mauve par excellence. Alors, ni joie ni déception ce week-end, Henri, puisqu'Anderlecht n'a pas joué.
Et donc n'a pas perdu.
Voilà. Mais on se prépare, il se prépare pour le match de Coupe d'Europe qui arrive cette semaine contre les Suisses de Berne. Et on en parlera tout à l'heure.
Bonjour à tous. Quel beau tableau. Quel beau plateau, j'ai dit.
Bah écoute, on est tous là pour le... On est tous là pour le retour du foot, hein, quasiment. Après, à côté d'Henri, en face d'Henri. Ah. Je sens qu'on va. Blaise Anderlinden, bien sûr, salut Blaise.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. C'est vrai que c'est un plateau très très bien garni. Nous sommes quatre autour de cette table, c'est une première, je pense.
Oui.
Quatre autour de la table, plus un derrière le pupitre, ça fait cinq.
C'est vrai. Le compte est bon. Blaise, je sens qu'on va encore passer une saison savoureuse, non, du côté du Vélodrome. Il y a eu depuis le début de la saison quelques petites... déjà des épisodes.
Ouais, c'est très drôle, c'est quand même le seul club qui siffle à l'entraîneur alors qu'il n'a pas encore entraîné. Quoi.
C'est unique et c'est pour ça aussi qu'on les aime. À côté de Blaise... Ah oui, voilà, c'est la musique du champion, Didier Cohn, fier représentant des Blauw en Zwart. Alors on va voir avec lui ce qu'on peut attendre de la saison du champion, dont l'équipe a tendance à se modifier, enfin se modifie assez largement cette saison en particulier.
Oui, avec ce qui peut paraître chouette, parce qu'on voit des chouettes noms sur la liste des feuilles de match. En même temps, il faut que la mayonnaise prenne, et voilà. Pour l'instant, Ojan Breidel, on s'enrhume un peu, parce qu'il souffle à la fois le chaud et le froid.
Bon, mais la saison est longue et ils ont démontré l'an passé notamment qu'ils étaient capables de revenir même quand ils étaient derrière. Parce que revenir quand vous êtes devant, c'est pas possible. Enfin, avec nous, j'ai sur ma palette, il se trouve que le son a disparu de l'hymne de son club. J'ai trouvé autre chose.
Le club aussi, hein.
Je sais pas ce que j'allais dire, c'était l'image du club.
Je ne sais pas si c'est fait avec humour. Hein. C'est une chanson, une musique qu'on n'entendra pas cette saison, en tout cas à Sclessin. Peut-être pas dans les prochaines années non plus. Enfin, en tout cas, on le souhaite. On le souhaite quand même au standard.
On souhaite
qu'il y soit. Parce qu'on le dit, même si on se moque souvent, on s'en moque un petit peu toutes les semaines. La Belgique a besoin du standard d'Anderlecht du club de Bruges pour pouvoir rayonner. Ça va, Steve ?
Mais oui, je suis hyper content d'être là. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Et je précise que c'est là que je me rends compte que j'ai peut-être un peu vieilli. C'est que moi, j'ai connu l'hymne de la Ligue des Champions à Sclessin, en direct. Donc voilà.
Bon, bah écoute.
c'était pas hier, c'était pas avant-hier.
Allez, au programme ce soir, eh ben, bien sûr, il va être question de Jupiler Pro League. Hein. On commencera par ça. On s'intéressera également au match de Coupe d'Europe, au combien important de la semaine, puisque ce sont les barrages. Qui se disputent des barrages. On va bien sûr s'intéresser au club belge, mais également aux barrages joués par un club israélien le Maccabi Haïfa qui est à l'occasion de se qualifier pour la phase de groupe de la C1. Et comme ça n'arrive pas toutes les ans, et ben on va, et qu'on n'est pas sûr qu'on pourra en parler la semaine prochaine, parce que si jamais ils se font éliminer, on va en parler cette semaine au moins, ce sera fait. Et s'il nous reste encore du temps, on va trouver, on fera un tour à l'étranger. Il s'est passé pas mal de choses sympas un peu partout pour les joueurs belges, mais aussi pour les autres. Ben, sans plus attendre, c'est le coup d'envoi. Alors c'est parti, on commence par notre bonne Jupiler Pro League, et je propose qu'on commence par le champion, honneur au champion, le club de Bruges. Ce week-end, les Blauwens Wortel ont emporté 2-1 face à Courtrai. Ils pointent à la troisième place du championnat. Mais on a l'impression quand même que justement cette, la puissance...
troisième place virtuelle.
Virtuelle, hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais on a l'impression que la puissance qui dégageait ces dernières saisons est peut-être un petit peu moins... En tout, elle semble moins importante cette année. Alors il y a l'effet que ce soit le début de saison. Mais avec les changements dont je parlais, que ce soit les départs de... Charles de Ketelaar qui était la pépite, Hans Van Aken dont l'avenir semble s'écrire ailleurs, en tout cas c'est ce qu'il a semblé exprimer, et puis la mise au banc, enfin je sais pas au banc mais au rebut on dirait comptablement de Vormer et Ritz, alors pour des il y a une grosse blessure bien sûr de Ritz, mais voilà, ça fait que avec tous ces changements là il y a une physionomie différente pour le club de Bruges. Est-ce que ça va lui porter préjudice cette année ?
Moi, je pense que, bah, comme toutes les médailles, elles ont leur revers et inversement. Donc, c'est pas toujours une bonne chose, je pense, d'avoir une colonne vertébrale à rebâtir pour un championnat. En revanche, ça donne aussi la chance, et dans un championnat comme le nôtre, avec des play-offs, de pouvoir justement démarrer, on va dire, dans un tempo un petit peu plus mollo, pour faire en sorte que et c'est valable pour toutes les équipes, oui, bien évidemment. Mais par contre, pour revenir à ce que tu disais, en disant cette année, est-ce qu'il dégage la même puissance ? Je me souviens, pour mémoire, hein, je parle sous votre contrôle, l'année passée, le début avait été poussif pour toutes les grosses cylindrées de Jupiler Pro League. Pourquoi ? Parce que ce profil à l'horizon, et c'est dans, ben, je pense que c'est jeudi qu'on aura le tirage au sort des poules, oui, de la Champions League. Je pense que beaucoup de clubs, parmi les grosses cylindrées, ben, il y en a qui avaient, dont la Coupe d'Europe ou les Coupes d'Europe étaient, je dirais, l'objectif principal d'y accéder aux phases de poules, l'Union. C'est fait. Enfin, ça, il le savait déjà, quoi qu'il arriva. Maintenant, pour Anderlecht, pour Gand, pour l'Antwerp, bah, c'est des premiers objectifs à ne pas louper pour eux. Et puis aussi, surtout, je pense qu'il va falloir... Je pense que même inconsciemment, les joueurs jouent avec le frein à main, dans la mesure où novembre arrive à grands pas. C'est dans 2 mois et demi, c'est la Coupe du Monde.
Moi, je te trouve... C'est quand même super important de le souligner, ouais, ça. C'est que ça va être en novembre... Enfin, partout dans tous les championnats, en novembre, ça s'arrête pendant 2 mois. Donc, tout le monde va aller. Et puis, il y a beaucoup de joueurs à Bruges qui espèrent jouer cette Coupe du Monde et qui ne vont pas se tuer sur le terrain en sachant qu'ils... peuvent potentiellement rater un rendez-vous qui est quand même le plus grand rendez-vous du foot et même du sport si on en regarde les affluences. Quoi.
Ouais. Quand tu vois les joueurs, même dans le body language, je pense à Noah Lang, puisqu'on parle de Bruges, il s'est foulé la cheville en faisant un centre. C'était pas prévu dans les plans de l'entraîneur de devoir faire sortir un joueur 2 minutes après son entrée au jeu. Mais on sent tout de suite l'angoisse. Parce qu'il est il est pressenti pour faire partie du noyau de l'équipe hollandaise. Et on sent tout de suite tous les joueurs. Le body language s'exprime.
Mais
pour
moi,
eux,
je voudrais quand même revenir
spécifiquement
sur l'équipe, sur le 11. Sur, quand on retire. J'ai pas regardé les feuilles de match de début de saison passée, mais si on regarde début de saison passée ou fin de saison d'avant. Quand on retire, c'est le milieu de terrain complet qui disparaît.
Oui, mais par quoi ils l'ont remplacé?
On est sûr de ce qu'on lâche.
Ils ont pris pour moi le meilleur médian qu'il y avait en Belgique actuellement, qui est Kasper Nielsen. Pour moi, ça c'est.
C'est vrai que c'est une.
C'est classe mondiale, d'une certaine façon. Je veux dire, toute proportion gardée.
Pour la Belgique,
Pour la Belgique, en tout cas. Je pense à un Balanta qui, bon, il est déjà là depuis une bonne saison, mais qui est quand même un remplaçant de luxe, de mon point de vue. Ritz qui va revenir de blessure, et je croise les doigts parce que c'est un élément essentiel, que ce soit à Bruges ou dans n'importe quelle équipe où il évoluait, notamment au Football Club Malinois, si ma mémoire est exacte. Je veux dire. Le milieu de terrain, moi, je m'en fais pas. Je ne m'en fais pas. D'ailleurs, je suis très, très étonné quand je vois, quand je lis les articles sur le club brugeois et que je vois qu'ils ont l'œil sur tel milieu offensif, tel milieu défensif, tel attaquant. Et j'entends jamais parler de ce qui m'apparaît, moi, étant le talon d'Achille de cette équipe en ce moment, c'est la défense. Parce qu'on a essayé avec Nsoki.
Ils ont perdu Nsoki, c'est vrai. Enfin, c'est
ça,
grave.
C'est une très bonne chose. Je pense que c'est la meilleure chose qui ait pu leur arriver.
12 millions d'euros, c'est vrai que c'est fait du bien.
À tous les niveaux.
C'est un génie.
Même au niveau sportif, un gars comme ça qui est pétri de talent, mais qui joue à la carte et qui se permet de faire les bêtises qu'il faisait avec une carte de visite comme la sienne, c'était un petit peu dommage.
Moi, je suis pas du tout inquiet pour Bruges. Bruges, en fait, c'était un peu une exception dans les dernières années de championnat. On sait que le championnat, c'est un championnat avant tout de transit. Maintenant, c'est un fait qui est bien établi. Et Bruges était un peu le petit village gaulois où il y avait une véritable stabilité qui leur assurait une vraie continuité en qualité, une vraie continuité en automatisme, ce qui changeait. Là, c'est vrai que Bruges connaît quelques petites modifications, mais... D'abord, je suis entièrement d'accord avec Didier, les modifications, vu les remplaçants, je ne suis pas du tout inquiet. Les remplaçants, ils sont d'une qualité à tout le moins égale à ceux qui partent. On disait que Lang était parti, c'était certain, c'était établi. Lang n'est pas du tout parti. On a même vu dans les journaux ce matin qu'il n'était pas impossible qu'il reste, justement en prévision de cette Coupe du Monde. Non, moi je vois Bruges quasi tout aussi fort que les précédentes années. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a un peu d'automatisme à refaire. Ça, c'est vrai, qu'il y a un nouvel entraîneur pour lequel c'est son premier mandat, c'est son première fonction. Donc, on ne connaît pas encore exactement quelles sont ses qualités. Donc, ça, c'est véritablement une question. Et puis, je pense aussi, et ça, moi, je suis, en tant que supporter du Standard, mais également neutre, en tout cas, dans dans la bataille pour le titre, c'est que je trouve que cette année, Bruges, ils ont de la concurrence. Et ça, c'est chouette. Honnêtement, oui, on y reviendra, mais quand on voit Anderlecht, Gand, L'Antwerp, Genk, on peut dire que ces équipes, tout doucement, elles travaillent à rattraper leur retard. Et ça, c'est peut-être, à mon avis, une des inquiétudes que peut avoir Bruges, mais certainement pas une inquiétude qu'on doit avoir en tant qu'amateur de foot.
Ce que Bruges a aussi, c'est une stabilité au niveau du cadre. La structure du club ne change pas et c'est des gens qui sont en place depuis un moment, qui ont une vision long terme avec une formation qui est efficace, une stratégie de transfert qui est intelligente.
Oui, le managing, il n'y a rien à dire. En revanche, moi, là où... Je ne vais pas dire ce qui m'inquiète, mais ce qui me dérange ou ce qui me déplaît quelque part, c'est que Prud'homme, il y avait la patte Prud'homme. Puis il y a eu Clément, il y a la patte Clément. Clément parti, Schröder est arrivé, on aime, on n'aime pas. Il avait le but et dans le cahier des charges, c'était être champion. Peu importe la manière, ils ont été champions. Et avec Karl Hufkens, que moi j'aime beaucoup, franchement, j'ai rien, mais je ne sens pas la patte de Hufkens.
C'est tout.
Oui, on est bien d'accord, mais je ne sens même pas quand je vois l'équipe évoluer, je pense que même pour les joueurs, il n'y a pas de nouveauté en fait. C'est du Clément, je ne vais même pas dire 2.0, je vais dire c'est du Clément que. Par moment, c'est du Schröder que. Parce que je pense qu'en valeur intrinsèque, si demain tu mets un entraîneur avec, je dirais, peut-être plus d'audace, peut-être aussi beaucoup plus d'expérience, je ne suis pas en train de critiquer Hufkens, peut-être que même les joueurs y prendraient plus de plaisir parce que j'ai l'impression qu'ils ne font que des photocopies de ce qu'ils ont l'habitude de faire depuis maintenant 2 ans. Et je pense même que pour un joueur, te voir toujours refaire, et on parlait du départ de Clément avec Blaise un jour, il disait, non, c'était avec Alex, qu'on salue s'il nous écoute. Il disait, oui, mais avec Philippe Clément, les joueurs, par moment, ils sont un peu lassés, c'est toujours les mêmes exercices à l'entraînement, c'est toujours la même chose. Je pense que sur le terrain.
Il faut de la variété, c'est vrai.
Voilà, et je ne sens pas cette variété. Je vois un Bruges, bon, moi je suis supporter, donc évidemment, je ne suis pas objectif par définition, mais en même temps, je ne peux pas dire que je m'amuse en voyant Bruges. Je vibre parce que c'est mon club, que je trouve qu'il devrait tuer les matchs comme ils ne le font pas, mais en valeur absolue, tu vois, les joueurs qui sont sur le potentiel des joueurs, je ne parle même pas de la valeur marchande, normalement, alors bien sûr...
Mais
c'est
bien justement ma question, parce que, enfin, on fait venir le Canadien, deuxième Canadien.
Buchanan aussi blessé.
Voilà.
Didrik Boyata vient d'être officialisé là.
Mais
comment tu parles de la défense, voilà.
Ouais. Mais comment on remplace...
C'est sur le tard, c'est sur un malentendu.
Moi, je me trouve hyper optimiste, parce que Charles de Ketelaere, c'est la star, l'espoir numéro 1 du football belge. Alors, vous mettez n'importe qui, tous, je ne sais pas qu'ils ont recruté vraiment, mais est-ce qu'il y a l'équivalent de l'espoir numéro 1 du football belge dans l'effectif de Bruges maintenant?
On verra.
Et comment on remplace Hans Van Aken? C'est meilleur joueur du championnat depuis 5 ans.
Deux fois soulier d'or. Alors,
Sur la Dagne, mais je veux dire...
Tu connais l'adage, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables.
C'est vrai.
Ça, c'est une évidence. Après,
parce que ça me fait penser à une chose que j'ai vue en France. C'est Lyon, le grand Lyon, qui a enchaîné les titres. Et puis Juninho est parti, un peu comme Valaken maintenant. Et puis...
Mais Sam, de Kettelaar est irremplaçable parce que tu ne peux pas... Vu que c'est comme tu le dis toi-même, c'est une des pépites du football belge, tu ne peux pas prendre un joueur dans le championnat de Belgique du même talent poste pour poste. Ce n'est pas possible. Tu dois soit trouver
une petite pépite... En même temps, avec Kettelaar, c'est poste au pluriel aussi.
Oui, oui, c'est vrai.
C'est ça son grand
avantage. Trouver une petite pépite dont tu sens que Bruges va être l'atmosphère qu'il faut pour qu'elle puisse éclore, soit de faire monter un jeune. Il n'y aura pas de remplacement poste pour poste pour chaque de Kettelaar à même niveau. Il va y avoir un nouvel équilibre parce qu'une star comme ça en championnat de Belgique, elle ne se remplace pas.
Mais d'un autre côté, moi je vois les choses autrement. Je veux dire, que tu joues par exemple pour un Ronaldo, tu joues pour un Messi, et encore, c'est encore pas le bon exemple. Je pense pas que le club et que les joueurs jouaient pour De Kettelaar. De Kettelaar faisait jouer autres. C'est très différent. Je pense que quand toute ton équipe est basée sur un seul finisseur ou un joueur, alors là, je te rejoindrai. En revanche, De Kettelaar, il y aura probablement pas le même talent. Brut, je veux dire. Et je le répète, la force de Kettelaar, indépendamment de son talent naturel, c'est qu'il pouvait occuper 5 postes avec une homogénéité incroyable. Ça, oui, ça va manquer à Bruges. Mais à ce moment-là, intervient l'entraîneur. Et c'est à lui de trouver et de tirer la quintessence de chaque joueur, de mettre les pièces du puzzle ensemble pour que ça ressemble à une belle image.
Justement, je poursuis. On est d'accord pour dire que Bruges a perdu en... pas en potentiel, en véritable talent. Enfin,
mais il y a ce qu'on connaît, maintenant arrive l'inconnu, et on va peut-être être étonné dans le bon sens.
Le coach est pas... Tu l'aimes bien, mais il n'y a pas pour l'instant la patte, et malgré tout, t'es optimiste ?
Je ne suis pas optimiste, je dis juste qu'il faut laisser sa chance au produit pour reprendre une expression bien du sentier et de la vérité si je mens, mais voilà, moi je ne vois pas arriver maintenant chez Karl Lufkens une véritable philosophie de jeu comme un Guardiola pourrait l'avoir. Il vient avec une philosophie de jeu comme même Hollerbach ou Bernstorff. Ce gars vient avec vraiment... après, il a des talents, il doit faire avec les outils dont il dispose. Mais je pense qu'avec les outils disponibles à Bruges, il y a moyen de faire bien mieux que ce qu'on voit sur le terrain en ce moment.
En résumé, tu es dubitatif, mais tu lui laisses sa chance.
À l'entraîneur, je pense qu'on est en droit d'espérer, quand tu vois sur la feuille de match des noms et des talents comme ça, tu es en droit d'espérer de t'amuser. Pour le moment, je ne m'amuse pas en regardant Bruges, pour être honnête. Vraiment. Et je m'ennuie pas non plus, mais j'en attends quand même quelque chose de... Bon, l'appétit vient en mangeant aussi, hein, mais voilà. Et là, de ton point de vue, je suis d'accord, on ne remplace pas un De Kettelaar. Mais tu vois, Noah Lang, en 30 secondes, il est monté sur le terrain, il a illuminé le match, malheureusement que 2 minutes, puisqu'il a dû sortir. Mais il y avait tout de suite de la pétillance, il y avait tout de suite, le côté un peu original. Absolument.
Vraiment un talent pur et... Et... Bon, oui, écoutez, moi je suis. Tant mieux pour le.
Ça fera un beau deuxième.
Comment ?
Ça fera un beau deuxième.
Voilà, c'est ça.
Derrière Anderlecht, probablement.
J'attendais de savoir.
Pour l'instant, c'est une équipe qui mérite. Franchement, il marche sur l'eau, c'est Genk. Hein.
Alors, justement, je veux qu'on vienne sur Genk. Genk qui, après un premier. Une défaite en ouverture, on est à 4.
Troisième alors.
On est à 4 victoires consécutives.
Attends, première défaite à Bruges, mais pas mérité du tout, être tout à fait honnête. Il méritait au moins un point.
Deux doublés de suite de. Einen ?
Ouais, Einen.
Einen.
Brian Einen.
Ça va venir.
Comment ?
Ça va venir, l'accent. Ouais.
donc, un club qui joue bien, qui marque, qui. A repris du poil de la bête.
Ben là, tu vois une vraie philosophie, par exemple.
Et est-ce que vous pensez que ça va être, comme on dit, le feuilleton de l'été, ou que vu ce qu'ils ont et le recrutement aussi qu'ils ont fait, pour l'instant, il illumine un peu le milieu de terrain du championnat. J'allais dire Mike Trésor, qui vient de Willem, et Willem de je sais plus quel club néerlandais.
Ils ont perdu Ito et je sens un autre chou.
Ouais,
c'est enfin, de ce que j'ai vu, le gars qui a remplacé Ito, franchement, on avait craint le pire. Moi, j'ai vu une pépite aussi de 19 ans. Oui. J'ai oublié son nom maintenant, c'est Ahouz ou... Enfin bref, ça va être vraiment, s'il confirme, ça va être juste être une merveille, ce joueur. Et puis, en même temps, Il ne faut pas oublier que Bruges a dans ses tablettes un certain Sanderberg et que je me demande jusqu'où Genk va être capable de dire non aux sirènes des, des euros que peuvent lui allonger les Manart et Bart Vrag.
Donc vous pensez que ça va durer ils ont une...
Mais Genk, ça fait quand même quelques années hein, qu'ils surfent sur des belles philosophies.
Hein. Ben, y a toujours du beau foot.
Là, je parlais, de, comme disait Henri, une deuxième place derrière Anderlecht.
Oui, c'est un peu dur. Est-ce qu'ils vont pouvoir conserver ce noyau ça, c'est évidemment toujours la question. Est-ce qu'ils vont tenir dans la durée?
Ça, on a dit l'Union l'année passée, donc je ne ferai plus aucun pronostic.
C'est vrai qu'après la saison...
Avoir la profondeur du banc, je me souviens.
Ouais.
Là, Steve vient de le dire, ça fait quand même quelques années que Genk est bien, mais Genk a toujours un problème, c'est qu'ils font pas des saisons complètes. Ouais. L'année dernière, ils ont mal commencé, ils ont bien fini, là, ils commencent bien. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir toute la longue... C'est vrai qu'on avait dit ça de l'Union l'année dernière, donc on peut pas lire une boule de cristal, mais ce qu'on a appris sur les dernières saisons, c'est que Genk n'arrive pas à faire un an complet et arriver jusqu'au play-off et être dans le top 4.
Mais en même temps, il se renouvelle toujours en bon joueur, avec toujours, comme tu dis, Didier, une philosophie offensive.
Tout à fait.
Tous ces joueurs, et c'est pourtant les entraîneurs passent aussi, hein, mais toujours avec la même philosophie offensive, avec des jeunes qui sortent. Ils ont une école de jeunes qui est absolument formidable.
Kevin De Bruyne, Trossard.
Ils ont des scouts. Ils ont des scouts excellents parce qu'ils vont vraiment chercher des excellents joueurs.
Et puis je voudrais tempérer juste une seconde ce que disait Blaise. Alors, ben, je reconnais qu'il a raison sur son analyse, mais d'un autre côté, Genk est le dernier champion en date avant Bruges. Hein. Les quatre derniers championnats, c'est Bruges, c'était Genk. Et avec quel football? C'était Philippe Clément à l'époque. Mais c'est le dernier champion dans le Big Five en Belgique.
Et ils ont été champions encore en 2011-2012. Ils y sont. Ils flirtent depuis maintenant 15 ans avec... plus que flirter, finalement.
Là aussi, le managing est excellent. Tu n'entends rien. Tu n'as pas des bruits de couloir. À Genk, tu n'as pas non plus de scandale. Voilà. Ils travaillent proprement, gentiment, bon père de famille. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'apparaît le moins.
Je ne sais pas si Mazou sera d'accord avec toi.
De qui? Il faut voir.
Qu'est-ce qui se passe en interne?
Il faut voir. En interne, Mazou s'est retrouvé bien vite esselé aussi. Hein. Il n'a pas pu amener son staff et ça a fait toute la différence. Puis en même temps, Mazou, maintenant, avait acquis de l'expérience. Il est passé d'une équipe à l'époque des Zèbres avec lesquelles il a fait des miracles.
Puis il y a un momentum qui fait que le club et Mazou n'étaient pas à ce moment-là. Ça n'allait pas être une réussite. Ce n'était pas prévisible à l'avance, mais ça n'a pas matché à ce moment-là. Ça peut arriver. Maintenant, il faut reconnaître que c'est toujours l'exemple qu'on donne parce qu'on a du mal à citer beaucoup d'erreurs à Genk. Hein. Et donc, on n'arrête pas de revenir sur cet exemple-là. Ce qui, à mon avis,
est suffisamment... Bruges, c'est les deux meilleures gestions championnat belge. C'est les deux meilleures gestions avec Bruges. Pour moi, Genk et Bruges, c'est vraiment une gestion en bon père de famille, d'une certaine façon. C'est propre. Et ils font aussi du business. Et bien, les deux.
C'est du solide, mais moi je reste sur la même position que Blaise, de les
Tant
voir.
Pis, je m'en vais.
Oh, non, mais de les voir dans le top 4 pour jouer vraiment le play-off, c'est vrai qu'il y a.
Moi je descends.
Moi je sais que les places vont être chères dans le top 4.
Ouais, cette année j'ai l'impression que ça va être.
Il y a l'Antwerp quand même qui.
On peut parler de l'Antwerp qui ne jouait pas ce week-end non plus en prévision de la Coupe d'Europe. Ils ont fait revenir. On va en parler. Ils ont fait revenir Toby Alderweireld. Ça se passe plutôt pas mal.
Ils ont failli faire revenir Dries Mertens, mais ça a capoté.
Ça a capoté.
C'est pas fini. Hein.
Non, si, c'est fini. Il a signé au Beşiktaş, je pense.
C'est vrai.
Ou Başakşehir, je sais pas où il joue.
Galatasaray,
bien sûr, c'est le troisième, comme d'habitude.
Nainggolan, donc Alderweireld. Ça fait.
Il manque un petit 6 Severens.
Vertonghen, hein.
Quand même, ça, c'est pour Bruges.
Oui. Ouais, apparemment, Bruges et l'Antwerp se posent sur beaucoup de talents. Hein.
Ouais.
Et c'est pas toujours Bruges qui gagne.
Non, mais c'était pas propre avec Ellenkamp pour le joueur. Après, pour le coup, tant mieux pour l'Antwerp parce que c'est vraiment aussi une pépite. Mais le mec, il donne sa parole, il dit OK, et puis il a réfléchi pendant la nuit. Si les joueurs de foot réfléchissaient vraiment pendant la nuit, ça se saurait.
Alors, je crois que
j'ai dit pendant la nuit. Hein.
Le meilleur coup dans ce style-là, Blaise s'en souviendra peut-être, c'était le joueur coréen qui devait signer à Lille. Et puis, je ne sais plus d'où il venait. Et puis, il a fini à Arsenal. Il a pris le train.
Effectivement. Je ne me souviens plus comment il s'appelait. Mais
il était assez vrai que... de Monaco. Je ne sais plus. Il venait de Monaco,
exactement.
Il était signé à Lille. Ouais. Et puis, ils l'ont vu arriver à la gare. Et puis, il y avait un train qui passait pour Londres. Et hop.
Par contre, pour le peu que je l'ai vu jouer, le Ekelen Camp, parce que moi, je l'ai vu la semaine passée, forcément, pas cette semaine, puisque l'Antwerp ne jouait pas. Franchement, je peux comprendre qu'on se dispute un joueur pareil quand tu le vois ce qu'il est capable de faire en peu de temps, parce qu'il vient d'arriver de poser ses valises. Enfin voilà, c'est intéressant comme profil, franchement.
Ouais. Une autre histoire très drôle, désolé sur les transferts, c'est quand même Abbé Dipelé qui pense signer au Bayern Munich et qui arrive à l'aéroport, et en fait c'est Munich 1860 qui veut l'acheter. Ouais,
évidemment. Mais là, tu vois ce que je te disais, il faut réfléchir la nuit aussi, parce qu'il fallait relire le papier.
Cristiano Ronaldo s'est pas trompé de Manchester?
Non, Manchester City s'est pas du tout trompé, hein, ça je peux te dire.
Oui, c'est ce soir.
Donc l'Antwerp quand même, ils bâtissent vraiment. Chaque année, ils bâtissent un tout petit peu plus. Ils font, ils font venir des bons joueurs, ils font revenir certains. Je suis pas du tout sûr que Vertonghen ce soit non plus totalement fini, parce que Vertonghen va devoir trouver une solution absolument. Il a quasi pas joué depuis à Benfica. Il y a la Coupe du Monde qui approche et tout le monde s'en inquiète. L'Antwerp est un candidat sérieux. Hein.
Oui, mais par contre, moi, il y a un truc qui me dérange, mais je pose la question. Quand tu vois, OK, ils font revenir Alderweireld, Raja, Nainggolan, tu vois, comment il s'appelle, c'est l'Autrichien ou le Suisse devant
Frey.
Je sais pas, dans deux ans, ils doivent racheter 23 joueurs. Hein. Je sais pas, alors ça ne peut être qu'un feu de paille. Si jamais ils y arrivent, ça ne peut être qu'un feu de paille. Ils n'ont aucune politique de jeunes.
Il y a deux ans, était en division 2. Hein,
on est d'accord, mais l'Union aussi. Mais l'Union a parié sur la jeunesse quand même.
C'est vrai, mais là, il y a...
On a
un vrai actionnaire qui veut faire des coups pour montrer que l'Antwerp est en train de bâtir sa place comme étant maintenant un candidat chaque année.
D'accord.
Et puis ça fait parler.
Ils sont véritablement en train de poser leur carte de visite.
Ils vont avoir une politique de mercenaires, d'acheter des mercenaires, parce que c'est ça un petit peu la réalité. Je veux dire, c'est dommage qu'ils n'ont pas Moi, je suis pour. Hein, moi, je suis pour le beau foot, quel que soit le champion. Si j'étais le premier à dire que l'an passé, l'Union sur le football produit méritait d'être champion à la place de Bruges, on est clair. Mais je trouve que l'Antwerp, c'est beau à voir cette saison, mais à quel horizon? Un an, deux ans?
Ouais, ils ont pris Balikwisha quand même. Enfin,
voilà.
Il y a deux, trois jeunes. Ils ont Gerkens aussi qui n'a pas 35 ans.
D'accord. Mais enfin bon. Voilà, pour
non, mais ils savent qu'ils vont pas bâtir leur
ils savent qu'ils vont pas bâtir quand même.
Ah oui.
Non, mais ils savent qu'ils vont pas bâtir leur avenir sur Alderweireld ou Nainggolan.
Aussi, tu es champion, tu es en Champions League, il faut quand même battre là-dessus aussi, hein.
Mais tu es en Belgique, tu fais pas de projection à horizon de noyau à 3-4 ans. Tu
fais pas s'installer, je trouve ça.
Bah, je trouve que Genk et Bruges le font. Même le Standard le fait à sa façon. Mais non, c'est la vérité. Il y a aussi beaucoup de jeunes pépites qui partent aussi rapidement, mais il y a un centre de formation. On est pour ou contre le Standard. Voilà, toi, tu es supporter du Standard. Moi, je reconnais ça. Il y a une. Même si le terrain, c'est pas excitant et c'est pas glamour à regarder, mais le jour où la mayonnaise va prendre, eh ben, ils ont 4-5 ans assurés devant eux.
Il n'y aura plus de frites.
Tu vois, mais je veux dire, l'Antwerp, ça ne peut être qu'un feu de paille, de mon point de vue, en tout cas. J'espère me tromper pour les Anversois. Hein. Mais je ne les vois pas. Voilà, ils vont être champions, c'est super, génial. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va en Champions League, on va faire 0 sur 18, parce que, ou bien on aura mis des jeunes qui
auront pas d'expérience. On parlera de l'OM plus tard.
Ça, c'est pas gentil pour Blaise.
Non, mais on parlera d'un autre club qui a fait ça. Mais on en parle tout à l'heure.
Ah oui, Henri va pas être content non plus.
Non, c'est pas. J'avais pas pensé.
Non, on était battu par l'OM.
Donc on a quelques costauds, comme on l'a dit, en championnat. L'Antwerp, le club de Bruges. On parlera d'Anderlecht. Tout à l'heure, tu veux dire quelque chose? Non, on en parlera au moment où on parlera des Coupes d'Europe, ce qui va être d'ailleurs tout bientôt. Et ben, on va parler d'Anderlecht, des Coupes d'Europe. Anderlecht, donc, joue jeudi contre les Young Boys de Berne. Ils ont gagné 1-0-1 en Suisse. On les a cajolés et c'est tout à fait normal et c'est une bonne chose de permettre au club qui joue un match aussi important.
Pas que Anderlecht, la Gantoise.
La Gantoise, mais tout ça.
Il y a un petit Anderlecht gant aussi, donc c'était logique. On pouvait pas.
Peut-être que pour la Ligue Europa Conférence, ils auraient pu s'abstenir de faire, d'enlever un match d'une journée de championnat.
En même temps, une poule, c'est une poule. Hein. Il faut en sortir et tu peux gagner une coupe et un trophée. Moi, je
demande
trouve ça intéressant de ce point de vue-là.
Demande à Mourinho ce qu'il en pense.
Ouais, c'est.
Ouais. Mais pour parler du match à Berne, j'ai regardé le match. C'est bien quand t'as été gagné, parce que je suis content pour le résultat, mais ça sort bien, quoi.
Ouais.
Maintenant, le goal à l'extérieur ne compte pas, ne comptant plus, il y aura un vrai match retour, probablement.
C'est des matchs de 180 minutes.
Ouais.
Pour l'instant, c'est un 0 à la mi-temps.
On est d'accord.
C'est vrai.
On est d'accord.
Du coup, justement, maintenant qu'on a un petit peu plus d'expérience de retrait, depuis qu'il n'y a plus le match à l'extérieur, vous aimez bien, vous n'aimez pas trop?
Moi, j'aime pas du tout.
J'ai fait le conservateur très longtemps la saison dernière, et en fait quand arrivaient les derniers matchs, genre quart de finale, demi-finale, j'ai bien aimé ce truc. Enfin, on reprend toujours les matchs du Real contre Paris et contre City, c'est des émotions qu'on n'aurait pas eues s'il y avait eu ce but à l'extérieur, et moi c'est vraiment des matchs qui m'ont pris au trip, quoi, vraiment.
Là je suis d'accord,
j'ai l'impression que
ils sont beaucoup moins complexés, les joueurs, j'ai l'impression. Il y a beaucoup plus de...
On a toujours ce réflexe de... On s'est habitué stratégiquement à l'idée de... Ouais, si on commence par un 0-0 chez nous, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'au moins on n'a pas encaissé un goal. Le goal qui vaut double. Ouais. Et donc on s'est un peu habitué à ça, mais finalement, quand on y réfléchit avec un peu de recul, ça n'avait pas énormément de logique, hein, cette règle. Et donc,
Pour moi, si. Pour moi, si, parce que tu vas dans un stade où tu as 300 de tes supporters qui sont parmi 20 000 autres, forcément, quand on voit ça, on en discutait avec Sam ce matin, en athlétisme, le public est porté. J'ai vu hier Newcastle contre, même si on sait que Newcastle aujourd'hui, c'est un club de millionnaires et milliardaires, on est d'accord, mais voilà, le public a fait une différence énorme. J'ai regardé Leeds qui a massacré Chelsea. Si tu enlèves le public et tu fais le même match à Chelsea, le résultat, ils ont perdu.
Ça fait partie des circonstances de jeu. Un club peut-être meilleur que l'autre.
Au niveau d'un entraîneur, au jour d'aujourd'hui, comme dit très justement Henri, c'est 1-0 à la mi-temps. Ok, très bien. Avant, c'est 0-1. Tu sais que tu dois en mettre 2 impérativement. Tu vas me dire ici aussi, d'une certaine façon. Mais... tu te dis, oui, mais je peux pas me découvrir trop vite, parce que si je prends un but en contre, alors je dois en marquer 4. Et donc, au niveau de la stratégie, c'est très différent. Par contre, au niveau de l'émotion, Blaise a mille fois raison. Ça, c'est vrai qu'on vibre plus. Ça, c'est d'accord.
Ouais. Ça permet, les joueurs avaient tendance à plus lâcher les chevaux en se disant, on attaque.
La conséquence aussi, c'est qu'il y aura beaucoup plus de prolongation.
Ouais.
Parce que tous les matchs nuls
donneront
prolongation, ce qui n'était pas le cas avant. Ça dépendait de.
Il fallait
qu'il y ait le même score à l'aller qu'au retour pour.
Mais on achève même les chevaux. Hein. Il faudra voir en fin de saison.
Ça fait pas de pub de plus, ça. À mon avis, ça a pas été. Ça a dû rentrer dans la balance.
Ça ne va pas échapper.
20% de prolongation en plus.
C'est peut-être une question à poser à Alex quand il rentrera de vacances, tiens. Pourquoi pas.
On lui posera une question. Vas-y, pardon.
Connaissant Seferine à l'UEFA, ça m'étonnerait pas qu'il ait prévu.
C'est pas son copain.
Que je déteste ce mec.
On revient sur le terrain. Anderlecht donc, va recevoir Berne.
Si je peux me permettre juste un instant. Tu vois, on donnait l'exemple d'une équipe qui aussi, en pleine reconstruction, je parle avec des cadres qui sont partis, des nouveaux joueurs, etc. Mais on sent, quand je les vois jouer, je les ai pas vus beaucoup, mais le peu que je les ai vus jouer, on sent une patte Mazou, on sent la patte de l'entraîneur quand je vois Anderlecht jouer. Après, je sais pas dire, si je le vois comme ça, je vais pas dire, tiens, c'est Mazou, mais on sent qu'il y a une idée derrière. Il y a un système qui ne ressemble pas à ce que Compagnie faisait.
La comparaison, à mon sens, ça n'a pas vraiment de sens, parce que Bruges est une équipe du top, qui justement se bat pour le rester et pour ne pas justement.
Là, je suis d'accord,
tandis qu'Anderlecht est une équipe qui est la plus grande gloire du football belge, mais qui depuis 5 ans est une équipe qui végète dans une espèce de marasme de transit perpétuel.
Fin de saison passée, il y avait du beau foot.
Avec énormément de frustration. De la part de la part des supporters, de la part de tous les gens qui suivent, de tous les passionnés qui suivent ce club. Et là, faut bien avouer, en tout cas moi, les suivants depuis le début de saison, et là je te rejoins sur la patte Mazou, je trouve que c'est là pour la première fois depuis bien 5-6 ans où je me dis waouh, je regarde Anderlecht jouer, je me dis mais cette équipe elle joue bien, elle fait peur.
Fin de saison passée, pour être honnête, sous Compagnie, que j'appréciais pas plus que ça comme entraîneur, mais en même temps, il y avait aussi du beau foot. Hein. On ne peut pas dire fin de saison, je parle.
Et tu te dis, mais il y a du talent, il y a vraiment quelque chose. Et ça, moi-même, je suis moi-même étonné de me dire, j'avais perdu l'habitude de voir Anderlecht. Généralement, je regardais à peine les matchs d'Anderlecht. On savait contre qui il jouait, mais on ne faisait pas tellement attention. Là, maintenant, on se dit, waouh, combien Silva va en marquer
Justement, j'allais parler de Silva. Il y a quelque chose qui est sur lequel ils se sont améliorés, c'est les transferts. Parce qu'on sait que les 10 dernières années, ils se sont traînés des boulets qui ne jouaient pas, qui étaient des anciennes gloires de la Jupiler Pro League. Je pense à Trebel qui joue un peu maintenant, mais là, tu parlais de Fabio Silva. Enfin, mais où est-ce qu'ils ont été chercher ce mec, quoi? Enfin, c'est fou. Comment est-ce qu'ils ont réussi à le prendre? Enfin, peut-être qu'il n'était pas assez fort pour Wolverhampton pour la première ligue, mais là, depuis qu'il est arrivé dans le championnat belge, il marche sur le championnat. Et un joueur comme ça, Anderlecht, ça fait longtemps qu'ils ont pas réussi à aller en chercher un, quoi.
Tu vois, quand je parlais de patte d'entraîneur tout à l'heure, eh bien, il me revient un exemple incroyable, mais en même temps qui va bien illustrer mon propos. Tu vois un Pep Guardiola
quand
qui arrive...
Quand on présente un truc comme ça, ça a intérêt à être niveau.
Tu me diras, ce que tu en penses. Tu as Pep Guardiola qui arrive au Bayern de Munich, champion, avec la manière, le bulldozer, machin. C'est pas facile d'arriver dans une équipe championne, de garder le championnat et de changer complètement philosophique. Et tu as donc, comme quoi, tu peux arriver dans une équipe qui marche du tonnerre et apporter ta propre philosophie et d'avoir un résultat similaire. Alors bon, je parle pas des moyens financiers, mais je veux dire, à toute proportion gardée, il n'y a pas cette patte d'un Houfkens avec finalement, un potentiel similaire. C'est ça que je voulais plutôt exprimer. Après, bon, Guardiola, c'est Guardiola. Mais bon, tu regardes même un Barcelone aujourd'hui avec Luis Enrique. Excuse-moi, ça fait plaisir à voir. Je veux dire, même si ils sont aussi en reconstruction, le Barça, c'est loin des années 2010, au jour d'aujourd'hui 2012, où ils marchaient sur l'Europe.
Ce qui a Anderlecht, c'est ce qui a Bruges depuis quelques années, c'est la stabilité aussi en dehors. Ça fait 2 années de suite maintenant que c'est stable. Je pense que ça se sent aussi dans la structure. Je pense que Mazzo arrive dans un cadre où il a juste à s'occuper du terrain.
Espérons-le, pour lui. Mmh.
Je sais pas,
espérons-le pour lui. Pour le moment, les résultats lui donnent raison. Il faudra voir une fois que, quand il y aura un moment.
D'accord, mais la structure est en place. Je trouve que l'infrastructure du club est plus stable que ce qui est depuis un an et demi, on va dire.
Oui, c'est vrai. Il y a une certaine stabilité déjà.
C'était difficile de faire moins.
Une stabilité déjà un peu en dehors.
Ça se sentait.
Comme dit Blaise, aller réussir, aller pêcher d'excellents joueurs de niveau européen. Faut le faire. Et puis moi, je trouve, c'est nouveau, c'est toujours très dur de parler maintenant après 3 journées, hein, parce que on a une tendance naturelle à extrapoler 5 journées.
C'est juste le double, hein. Un peu de choses près.
Quoi, on est déjà à 5 jours.
Un septième.
On a une tendance naturelle à extrapoler un peu les conclusions, parce que voilà, on est passionné. Mais cet Anderlecht là, honnêtement, je me dis, t'as envie de le voir jouer.
Ouais, je suis d'accord.
T'as envie de les voir jouer parce que ça développe du jeu.
Moi, je
avec des stars. Dans un environnement qui a l'air apaisé. On verra si ça va tenir. Et en effet, quand les premiers nuages vont arriver au-dessus du feu, le parc Astrid, ça va arriver de savoir comment est-ce qu'ils vont le gérer.
Ils sont tous au-dessus de ce classement pour l'instant.
Ils sont
bloqués par les terrils.
Ils sont bloqués depuis longtemps. Hein.
C'est une vraie cuvette. Hein.
J'ai trouvé qu'il y avait un excellent article dans un grand quotidien de football belge qui disait « La crise commence tôt, c'est un standard ». J'ai trouvé ça rigolo parce que la question n'est pas « S'il y a une crise, la crise commence tôt ». C'est le timing de la crise qui était l'objet de l'article.
Trêve de plaisanterie par rapport à ce qu'on disait au début d'émission, que le championnat on peut commencer mollo-mollo, mais il y a quand même 3 descendants directs cette année.
Ouais. Je parlais des gros cylindres.
Eh bien, ça fait arriver à notre question suivante. Malheureusement, ça concerne le club qui est cher à ton cœur, Steve. On voit que ça a pas bien commencé pour le moment.
On parlait pas Coupe d'Europe là.
C'est vrai qu'on parlait Coupe d'Europe. Là, tu m'as tendu une perche. Elle est trop grande. On va revenir sur la Coupe d'Europe après. Mais
si tu parles de la Coupe d'Europe, on ne parlera plus jamais du standard. Donc, si on veut parler du standard, il faudra quand même qu'on parle du football provincial.
Moi, j'ai dit que je ne venais plus ici. J'avais dit tout, mais pas le standard.
Bon, alors, vous proposez en fait qu'on garde la question. Pensez-vous que le standard sera relégué cette année pour une autre...
Non, ça, je ne pense pas. Enfin, je ne l'espère pas, plutôt.
Non, le standard ne sera pas relégué. Je peux te l'assurer. Par contre, je ne peux pas penser une seule seconde. Comment est-ce qu'on a pu penser que cette équipe, après 2 matchs, il y aurait un renouveau en voyant la pauvreté du noyau qui n'a pas changé d'un iota quasiment.
Par rapport à
l'année passée. Et ça, je n'en revenais pas de me dire, mais comment est-ce que les commentateurs ou les joueurs, si réellement ils croient ce qu'ils racontent, ont pu penser qu'il y aurait eu un déclic qui n'avait pas eu lieu l'année passée? Le seul déclic, c'est que cette équipe manque de qualité. Point à la ligne. Tu peux avoir n'importe quel entraîneur, un certain nombre d'entraîneurs et pas les moins talentueux se sont cassés les dents. Tu peux faire tout ce que tu veux. Quand tu as une équipe qui est qualitativement aussi faible, tu ne vas absolument pas réussir à avoir les objectifs qui sont communiqués publiquement. Qu'ils vont descendre, je ne pense pas. Et je crois qu'à un moment, on va mettre les moyens, il y aura quelque chose qui va faire un déclic qui font qu'ils ne vont pas redescendre. Mais l'année, elle va être longue. Longue encore.
Ce que je trouve qui est très négatif, c'est cette histoire de mercato, parce que tu as les deux seuls joueurs qui ont le niveau au standard, c'est Amala et Raskin. Ils sont pas encore fixés sur leur avenir. Et ils jouent en pensant au mercato, je trouve que ça fausse un peu le truc.
Alors à ce moment-là, il faut commencer les championnats le 1er septembre, quoi. Je veux dire,
c'est les dirigeants. Les dirigeants doivent créer les conditions pour que les gens puissent s'épanouir. Quand tu es les deux seuls, quand tu dis les deux meilleurs joueurs, mais j'ai envie de te dire les seuls deux joueurs à niveau d'une équipe comme le Standard sont là, ils se disent mais qu'est-ce que je viens faire dans cette galère? Clairement, et ils ont pas, on comprend qu'il n'est pas envie de rester. Mais moi, il y a un enthousiasme de nouveaux dirigeants, même si c'est l'inconnu pour tous les supporters du Standard. Donc, on se réjouit parce que il y a un changement qui était absolument nécessaire, mais il y a quand même une inquiétude liée à cet inconnu, cet actionnaire lointain qu'on ne connaît pas. Mais il s'est rien passé, pour le moment, depuis qu'il a repris. Alors, on demande pas de changer tout du jour au lendemain, mais qu'on nous fasse un peu rêver. Quand tu vois que tu n'achètes pas un joueur.
Ouais,
tu n'achètes pas un joueur qui est un tout petit peu. On ne demande pas d'acheter Fabio Silva. Hein.
Tu nommes un entraîneur avant d'avoir un directeur sportif, c'était assez bizarre ça.
Avec le directeur sportif qui arrive mi-août et qui dit bon, je vais ouvrir les papiers, je vais rentrer dans les dossiers. Mais ça fait sérieux ça?
Ouais, et ils ont fait revenir, on en parlait, Eden Shamir, l'Israélien, qui avait déjà pas été. Quand vous prêtez un joueur que vous n'aimez pas, que le club qui le prend vous dit non merci, on va pas signer l'option d'achat, et là il se retrouve à jouer déjà trois, il a déjà joué trois matchs.
Mais ils ont commencé à faire revenir Avenatti, ouais. Il a tout essayé, même le GBA, il n'y a rien qui allait.
Attends, il est à court trait, hein, et ça va toujours pas. Ça m'arrange bien ce week-end, mais bon.
Je pense qu'ils vont pas descendre, mais en tout cas, il y a.
Il a quand même joué dans l'équipe vice-championne de Belgique l'année passée. Hein.
C'est vrai. Il a joué un moment, c'est vrai. Il y a des vraies inquiétudes à avoir. L'inquiétude pour moi, c'est la qualité et le projet.
Mais c'est surtout ça. Je t'avoue que j'ai été un peu enthousiaste quand ils sont arrivés 7-7-7 en me disant ok, bon, ils vont parce qu'ils sont arrivés quand même assez tôt en fait cet été. Ils arrivent mi-juin, si je me trompe pas. Le mercato avait pas encore commencé. On s'est dit ok, ils vont déjà, avant de lancer leur mercato, ranger un peu le club, essayer de remettre les dossiers sur la table. Mais ils ont rien fait, en fait. Ils ont absolument rien fait. Et comme l'a très justement dit Henri, et toi aussi tu l'as dit, il n'y a pas de qualité dans cette équipe. Et les deux seuls joueurs qui sont bons, ils vont partir au dernier jour de mercato. C'est pas sérieux. Tu peux même pas les remplacer parce qu'ils partent le dernier jour de mercato et que t'attends les sous de leur vente pour pouvoir acheter des joueurs. Ça n'a aucun sens.
Et on appelle ça des investisseurs, c'est ça que j'ai pas bien compris, mais bon, c'est comme ça.
Mais
l'investisseur investit.
Ils sont allés au Red Star en France, ils ont rien fait non plus. Hein. C'est le problème de ces investisseurs américains, c'est qu'ils sont là pour mettre 2-3 billes et essayer de récupérer un peu de sous, quoi. Et pour l'instant, il y en a aucun qui a réussi, des investisseurs américains qui sont partout dans le foot. Ça marche pas, Arsenal ça marche pas, Marseille je le dis même pas, Bordeaux ça a complètement foiré, enfin tous les Américains, Milan, le fonds Elliott ça a foiré, enfin...
Ouais, ils ont l'argent, ils ont pas la connaissance du foot.
Ils ont peut-être une approche vraiment américaine des choses en pensant que... Parce que souvent, sont soit des fonds, soit des propriétaires...
Je comprends pas pourquoi ils jouent
McCourt, il a des clubs de sport aux États-Unis.
Et ça, ils pensent que c'est le même fonctionnement, mais pas du tout. C'est pas du tout la même chose.
Après, des premières interviews, ils avaient l'humilité de dire qu'ils s'entouraient. Et ça, voilà, c'est une certaine humilité. Ça plaît aussi au public en disant, j'ai l'humilité de dire, je ne suis pas un grand connaisseur du football belge, mais je mets autour de moi des gens et je mets à disposition des gens qui connaissent les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser notre projet commun. C'est le discours. Hein.
Moi, je t'avoue que personnellement, il y a un truc qui m'impressionne, c'est que j'ai vraiment cru, et on en avait parlé d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. On s'était dit, les Américains, ils ont le sens du marketing, hein, c'est là que ça a été inventé d'une certaine manière, ils ont le sens du show, voilà. Et en fait, on ne retrouve rien de l'ADN américain, je veux dire. En tout cas, au standard, Reims, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop, mais comme dit Blaise, Marseille, eh bien, peut-être qu'à Marseille, à l'époque, je parle sous ton contrôle, il y avait un spectacle en même temps dans le stade, ils avaient apporté quelque chose. Peut-être pas sur le terrain, mais en dehors, il y avait quelque chose. Ici, c'est...
Alors, j'ai tendance à être peut-être exagérément optimiste, hein, c'est ce qui me permet de survivre en tant que supporter du Standard depuis plus de 40 ans. Je vais laisser le bénéfice du doute du projet sur à moyen terme, pas à long terme, à moyen terme. Mais à moyen terme en football, et surtout dans le football belge, c'est pas des années. Hein.
Non, tout à fait.
Donc j'acte le fait qu'ils n'ont rien fait ce mercato et que clairement ils nous mettent dans une très 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 mauvaise situation pour démarrer l'année et que cette saison risque d'être extrêmement pénible. Une saison comme ça, peut-être pour construire, mais certainement pas de deuxième.
Regarde, là, Compagnie, même chose. Oui. Il est arrivé un peu comme le 777 d'une certaine manière, en disant il était devenu en joueur, entraîneur, investisseur, un petit peu toutes les casquettes. Et ça a pris combien de temps? Enfin, ça n'a pas pris après combien de temps? 3 ans, quasiment. Ah ouais. Deux saisons et demie.
Et t'es tout dur Compagnie... de dire que ça n'a pas pris.
Ah non,
ils ont quand même mis en play-off l'année dernière.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Quand je dis que ça n'a pas pris, je veux dire par rapport aux ambitions affichées au départ. C'était une équipe qui était, ils voulaient rebâtir pour refaire d'Anderlecht le lustre d'antan. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, Anderlecht restera Anderlecht, ce sera jamais une petite équipe. On est bien d'accord. Mais il n'est pas parvenu au quart du huitième de ce que il avait, pas lui personnellement, mais ce que eux avaient avancé comme ambition. Tout Compagnie qu'on soit, et avec un noyau quand même de meilleure qualité à la base que ce que le Standard.
Voilà, la première année, c'était quand même, il n'avait pas beaucoup de qualité. Hein. Compagnie,
on verra au cours de la saison. Je finis juste la phrase. Sinon, comme
ça, oui, non. Il n'avait pas énormément de qualité. Mais je pense que son bilan est mitigé parce qu'il y a eu des bonnes choses. Maintenant, c'est vrai que dans l'histoire d'Anderlecht, le retour de Compagnie. Le retour de Compagnie. Qui a créé beaucoup d'attentes, et les attentes, on retiendra qu'elles n'ont pas été totalement assouvies. Au Standard à voir, mais en tout cas, et comme le disait Henri, parce qu'on a commencé comme ça en disant les nuages, ils sont avant tout sur ce qu'est-ce, le ciel est très 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 sombre et on ne voit pas d'éclaircie à l'horizon.
Eh bien, un endroit où il fait souvent beau, c'est Haïfa.
Mon Dieu, tu devrais faire de la radio.
La transition, hein. Haïfa, dont l'un des clubs, le Maccabi, est aux portes d'un exploit, on peut dire ça comme ça, puisque ils vont jouer le match retour des barrages, ce qu'on appelle play-off maintenant de Ligue des Champions, face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils ont remporté le match aller 3-2, et s'ils réussissent à passer cet obstacle, ils accéderont donc à la phase de poule de la Ligue des Champions. Ils vont quand même devoir affronter l'enfer du stade Maracana. Alors le Maracana avec un K, mais c'est le nom du stade de Belgrade qui a toujours été un stade très chaud, bouillant. 3-2.
Les Diables Rouges ont été joués, ça a été. Hein.
Ça a été. 3-2 au match aller. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a un pronostic.
Non.
Non, mais c'est déjà bien d'aller gagner à l'Étoile Rouge, parce qu'ils sont souvent en Champions. Quand les gros clubs, tu l'as dit, vont jouer là-bas, c'est jamais très facile.
Ils ont gagné à domicile.
Je sais, mais quand même, c'est quand même un club qui est souvent en Coupe d'Europe. Gagner la première manche, c'est déjà ça, parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Belgrade va passer tranquille, quoi.
Et en fait, en regardant leur parcours, ils ont quand même éliminé l'Olympiakos avec un match ou une victoire 0-4 au Pirée, ce qui est quand même pas anodin. Et donc ils ont quelque chose, un peut-être un petit feu intérieur qui va les porter.
Faut leur souhaiter en tout cas.
Je crois que ça fait 7 ou 8 ans. Il y a eu que 3 fois un club israélien.
J'ai vu leurs supporters, moi c'est surtout ça, leurs supporters. Ils ont un sérieux cup, hein. Ils ont mis une ambiance folle.
Alors, le positif pour eux, c'est que, un peu à l'image de l'Union Saint-Gilloise, un tour après, s'ils perdent, s'ils sont éliminés, ils feront tout de même la Coupe d'Europe. Mais la C3, cette fois, et la C3 et la C1, c'est pas du tout pareil. J'ai posé la question à un spécialiste des chiffres, l'excellent Alexandre Demeter, à qui j'ai posé quelques questions. Alexandre Demeter, donc, qui est fondateur de Sportimize, une agence de conseil sportif, marketing sportif, et donc il nous a donné un petit éclairage sur l'aspect financier et la différence entre une participation à la C1 et à la C3. Salut Alex, et merci de répondre à nos questions. On est donc en train de discuter du Maccabi Haïfa et de la possibilité qu'il a de se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. En cas d'élimination, c'est vers la phase de groupe de la Ligue Europa que le Maccabi Haïfa se dirigerait. Alors on se pose la question suivante, quelle est la différence financière entre une participation à la phase de groupe de la Ligue des Champions et à la phase de groupe de la Ligue Europa ?
La différence, elle est énorme. Il faut savoir qu'en Ligue des Champions, une équipe participante touchera environ 25 millions d'euros, sans compter les résultats, sans compter les droits TV et sans compter tout ce qui est ticketing, VIP, merchandising. Par point prix, il y a 900 000, 950 000 euros à prendre en Ligue des Champions, en plus de ce fee. Si l'équipe va en Europa League, à ce moment-là, c'est quand même divisé de près de 75%. Il y a environ entre 5 et 8 millions à grappiller en Europa League avec des résultats plus ou moins probants et éventuellement une qualification pour le tour prochain. C'est difficile à l'heure actuelle de schématiser le parcours du Maccabi. Espérons surtout qu'il se qualifie pour la Champions League, parce que là, ça sera le pactole et ça sera un budget qui sera presque doublé pour la saison prochaine. Maintenant, il faut savoir, la qualification pour ce dernier tour, qu'on appelle désormais les play-offs de la Champions League, a rapporté déjà 4,9 millions d'euros nets au club. Surtout grâce aux bons résultats au tour précédent, plus les droits TV à ce moment-là, cette somme peut encore un tout petit peu s'agrandir, mais en tous les cas, cette somme est acquise.
Pour le Maccabi Haïfa, on comprend qu'une participation à la phase de groupe de la Ligue des Champions ferait une différence importante au niveau rentrée financière par rapport à ses adversaires nationaux. C'est dans une moindre mesure, mais une situation qu'on connaît bien en Belgique, puisque le club de Bruges, qui disputera cette saison la sixième campagne de Ligue des Champions en 7 ans, est le seul club belge à être régulièrement dans la phase de groupe de Ligue des Champions. Et avec le temps, cette manne financière qui tombe chaque année creuse un écart avec ses principaux adversaires. Qu'en penses-tu ?
Oui, on connaît très très bien cette situation, car la seule fois où il y avait deux clubs qui étaient qualifiés, c'est-à-dire Genk, le champion en titre, et le club de Bruges, c'est le club de Bruges qui avait réussi à passer Graz et Kiev pour accéder au bal des champions. C'est à ce moment-là, seuls les droits TV sont divisés par deux équipes, mais le starting fee et les résultats dans la Champions League elle-même, elles restent les mêmes. Donc on a vu Bruges a réussi à bien investir cet argent dans des joueurs, dans son centre de formation, dans son base camp également. Et ça fait de Bruges l'équipe à battre et l'équipe la plus forte de Belgique aujourd'hui, d'un point de vue sportif, d'un point de vue structurel également, en coulisses. Maintenant, pour une équipe israélienne, on n'a pas vu beaucoup les derniers temps en Ligue des Champions, mais quand elle se qualifie, on se souvient justement du groupe avec Bordeaux et le Bayern avant. Quand une équipe se qualifie, elle fait des bons résultats. Mais après, il faudra investir cet argent dans le sportif, mais également dans son infrastructure et dans ses jeunes pour pouvoir accéder presque chaque année à la Ligue des Champions.
Merci beaucoup, Alex, de cette explication. On comprend bien que, effectivement, c'est, toutes les deux ont le même format, mais qu'il y a une différence énorme. Et donc, bah, surtout, c'est vrai, comme le disait Alex, dans un championnat comme la Belgique, les participations hyper régulières de Bruges font une différence à terme. En Israël, ce serait encore plus important. Je crois que j'ai noté que la valeur totale de l'équipe du Maccabi Haïfa est aux alentours de 15-17 millions, alors que l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est pas un truc extraordinaire, mais c'est 3 fois plus déjà, ou 4 fois plus, 50-60 millions d'euros. Écoutez, on leur souhaite le meilleur, et pourquoi pas avoir un club israélien.
Merveilleuse incertitude du sport. Sinon, si on regarde que les budgets, il faut plus faire de coupe, il faut plus faire de championnat.
Je leur souhaite de se qualifier. Et d'être tombé dans la poule de Bruges, on irait voir le match là-bas. Et ce serait...
Ouais, j'aurais un petit pincement au cœur quand même. Franchement, ça va être compliqué.
Bon, je vous propose qu'on fasse un petit tour maintenant. Il nous reste peu de temps, comme d'habitude. Des choses marquantes de ce week-end. Mais non, pas le Paris Saint-Germain. Kevin De Bruyne.
Ah ben oui, ouais, alors, voilà. Je vous expliquais hors antenne, j'ai fait une expérience sans le vouloir hier.
Ne faites pas ça chez vous, ça a été fait par des professionnels.
C'est ça, des professionnels.
Ouais.
Je regardais Zulte Charleroi.
Oula, pourquoi ?
Au bout de l'ennui, c'est pas pour rien qu'on en a pas parlé. Et puis à côté de ça, je pense, j'ai mis en route, bien sûr, Newcastle, le Manchester City, et je me suis dit, attends, c'est pas le même sport qu'ils font, quoi, ça a rien à voir. J'avais l'impression qu'il y en a une qui était au ralenti complet, c'était même pas du niveau provincial, quoi, je veux dire. C'était vraiment intéressant à voir, parce que tu regardes un match, t'es pris, mais...
La vitesse, j'imagine, la vitesse.
C'est inimaginable, et notre Kevin. Ce gars, il n'y a pas assez de superlatif, quoi. Il est juste invraisemblable, franchement. Et parfois, on se dit, oui, mais enfin... Mais chaque semaine, il refait ça. Et chaque fois, il met la balle là où personne ne l'attend, sauf son collègue, et c'est juste tout ce qu'il fait, même quand ce qu'il entreprend n'aboutit pas, tu sens qu'il y a une intelligence derrière, qu'il y a une vraie pensée, que tu te dis, il n'a pas réussi, mais c'est pas du n'importe quoi comme parfois tu vois.
Ouais.
3-3 pour l'anecdote, le résultat. City qui a ouvert la marque très tôt dans le match, après 3 minutes ou 5 minutes max, puis qui s'est trouvé mené 3-1, ils sont revenus en 5 minutes, ils ont eu les occasions aussi de gagner ce match. Puis finalement, je pense, au vu du match, c'était un score logique. Il n'y en avait aucune des deux qui méritait plus que l'autre de gagner.
Là aussi, il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont marcher sur des œufs pendant les 3 prochains mois. Il joue pas ce soir, il est sur le banc, mais qu'est-ce que vous pensez de la tournure de l'affaire Ronaldo? Enfin, l'affaire, je sais même pas s'il y a une affaire, il y a pas d'affaire, il y a du...
Enfin, si, moi, c'est que des affaires, en fait.
On en parlait tout à l'heure, et je disais, enfin, ça fait vraiment de la peine, on dirait Elvis à Las Vegas, quoi. On dirait un vieux chanteur, une vieille star, qui arrive bourré sur scène, enfin.
Mais c'est de sa faute, hein. Pour moi, en tout cas, c'est de sa faute.
Je trouve ça, j'ai toujours été extrêmement triste de voir, dans tous les sports confondus, des fins de carrière de stars, de personnes qui ont constitué des telles idoles. Dans un sport, de terminer finalement, je dis pas qu'il a terminé, mais en tout cas d'être par la petite porte.
Moi j'ai l'impression qu'il se fait exprès, pas qu'il fait exprès, mais qu'il a une telle obsession de vouloir. Il veut clairement pas rester à Manchester cette saison, et donc il se dit,
il faisait partie dans le domaine de son icône, il était que peu importe où il passait, il éclaboussait partout, de sa classe. Et là c'est son premier. Grosse tâche à sa carrière.
Cette équipe, c'est un cataclysme, quoi. Enfin, on en parlait, le match 4-0 contre Brentford, c'est juste pas possible quand tu t'appelles Manchester United et que t'as quand même des bons joueurs sur la pelouse.
De Gea nous a fait une arconada de Anthony.
Bien sûr. et après, d'un côté, moi, je peux le comprendre, Cristiano. L'année dernière, il finit la saison avec 20 buts, quand même, hein. Et dans une équipe qui est nulle, il faut le dire. Et là, cette saison, il est de nouveau dans cette équipe nulle. Il sait qu'il peut marquer des buts. Ça nous fait mal, nous, en tant qu'observateurs. Mais à un moment, lui, il se dit, ma carrière, c'est pas jouer avec des gens comme ça, quoi.
Ouais, ouais.
En même temps, il a un nombril surdimensionné aussi. Hein, il ne faut pas, déconner.
Alors, venons-en au Paris Saint-Germain, justement, puisque tu parles de ça.
En parlant de nombril,
victoire 1-7. 1-7.
Ils ont fait moins bien que le Bayern.
Que le Bayern, c'est 0-7. Ça, 0-7. ils ont pourtant essayé de se... Ils ont été rapides, puisqu'il a marqué Mbappé le... après 8 secondes de jeu.
Ça c'est parce qu'on lui a passé la balle, parce qu'on lui passe pas la balle, il s'arrête.
Honnêtement, le PSG, je sais pas si tu te rappelles, l'année passée, on avait reçu le président du club des supporters de Bruxelles, et apparemment, j'ai dit un slogan qui est apparemment resté pour leur club, c'est PSG, c'est 4 matchs par an. Ben, honnêtement, tout ce qui se passe maintenant n'a aucun intérêt parce qu'on n'est pas encore dans ces 4 matchs.
C'est pour ça que j'ai attendu 57 pour en parler, parce que ça sert à rien de.
Ça n'a aucun intérêt. Ils ont joué contre Nantes, contre Clermont, contre Montpellier et contre Lille. Et le plus important, ce sera après la Coupe du Monde en 8e de finale de Ligue des Champions. Et après la Coupe du Monde, tous ces mecs-là, on le disait aussi tout à l'heure hors antenne, t'en as beaucoup sur le 11 de base. Qui est potentiel pour aller en finale de la Coupe du Monde.
Ouais, ils peuvent rester très longtemps, quoi.
Donc c'est des mecs qui vont revenir.
Cargo.
Honnêtement, on aura l'occasion d'en reparler peut-être lors d'une prochaine émission, mais tout ce qui se passe avec cette Coupe du Monde en plein milieu des championnats va tout changer par rapport à la gestion d'une saison classique auquel on est habitué, et on ne connaît pas encore bien les conséquences de ça.
Un peu comme que le Covid, en fait. On découvre.
On découvre. Eh bien, écoutez, en tout cas, on a été ravis de vous retrouver. En tout cas, c'était mon cas. Merci à vous quatre. Merci, Henri.
Merci, Sam.
Sam.
Bon match cette semaine pour les supporters, les divers.
Moi, je regarderai.
Les supporters belges seront tous derrière Anderlecht.
Si ça passe Anderlecht. À la télé, parce que le match aller, il passe pas à la télé. Hein.
Gand, Anderlecht, Antwerp. Tout qui est belge, moi je suis. Et bon. Je regarderai attentivement demain aussi Haïfa.
Eh bien, bonne chance à Haïfa et à la semaine prochaine.
Salut.
Ciao.
C'est tellement cool.